Radio Kapi.
Oh, Kapi. Grâce à Mzati à la présentation.
À la une de l'actualité, l'Union européenne annule sa mission d'observation électorale en République démocratique du Congo à cause des contraintes techniques qui, selon elle, échappent à son contrôle. En réaction, le gouvernement regrette et dit prendre acte de cette décision. Suite Kivu, le gouvernement provincial met en place un plan de relèvement post-catastrophe de Calais. Mais l'heure est encore à la recherche des partenaires financièrement disponibles pour la mise en œuvre des actions prioritaires qui sont retenues dans ce plan de relèvement. Le syndicat Fossico, membre de l'intersyndicale de la Régie des voies aériennes, alerte et interpelle le président de la République pour faire échec au projet d'investissement turc à travers sa firme Milvest sur la modernisation de l'aéroport international d'Injili. Pour en parler, nous recevons dans ce journal le secrétaire général de ce syndicat, Trésor Kapia, évoque les clauses de ces contrats en gestation qu'il considère dangereux pour les emplois au sein de la RVA. Mesdames et messieurs, bonjour. L'Union européenne annule sa mission d'observation électorale en République démocratique du Congo. C'est le condensé de la déclaration de la porte-parole de l'UE hier mercredi rendue publique sur les sites officiels de l'organisation européenne. Retour sur cette décision avec René Capita.
En raison des contraintes techniques échappant au contrôle de l'Union européenne, nous sommes contraints d'annuler la mission d'observation électorale de l'Union européenne en République démocratique du Congo, déclare la porte-parole de l'Union européenne sur la page d'accueil du site officiel de l'organisation. Cette déclaration ferait suite à un désaccord entre l'Union européenne et le gouvernement congolais autour du déploiement des équipements de communication devant servir à l'observation des opérations électorales par la mission européenne. Notons que la mission de l'Union européenne prévoyait de déployer 42 observateurs à long terme dans 17 provinces, mais cela n'est plus possible, souligne la déclaration de sa porte-parole. Tout en encourageant les autorités de la RDC et les parties prenantes à poursuivre les efforts pour que le peuple exerce ses droits politiques et civils lors de prochaines élections, l'Union européenne étudie d'autres options avec les autorités congolaises, y compris la possibilité de maintenir une mission d'experts électoraux afin d'observer le processus électoral depuis la capitale, conclut la déclaration.
En réaction, le gouvernement dit regretter la décision de l'Union européenne d'annuler sa mission d'observation des élections du 20 décembre malgré les négociations en cours. Le gouvernement de la République prend acte de cette annulation, indique le communiqué du porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Pendant ce temps, la campagne électorale se poursuit sans désemparer. Dans la province de la Tchopo, la population s'est adressée directement au candidat Félix Tshisekedi. C'était hier dans la soirée à l'esplanade de la poste où il est arrivé aux environs de 19h20. Le problème d'insécurité à Lubunga à la suite de la vente des terres, la dégradation de la route nationale numéro 4, la hausse des prix des produits alimentaires, du carburant et bien d'autres ont été posés à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par quelques personnes qui ont eu la chance de prendre la parole. Le point avec Jacques Moukonkoli.
C'est une véritable marée humaine qui attendait le chef de l'État sortant pour lui poser carte sur table ses principales préoccupations. Dès l'entame de son adresse, Félix Antoine Tshisekedi dit qu'il est bien informé de la vente des terres à Lubunga et qu'il va les restituer à leurs propriétaires. Il accorde la parole à quelques 5 ou 6 personnes qui s'expriment librement à tour de rôle à la tribune. Celle-ci évoque l'insécurité et les tueries en cascade par des jeunes gens instrumentalisés ainsi que par des personnes étrangères. Selon leurs propres termes, la dégradation de la RN4 a entraîné la hausse des prix des produits sur le marché, dont celui du carburant. La dépréciation du franc congolais face au dollar américain a été également soulevée. Autre problème évoqué, le manque de bourses d'études pour les étudiants et de matériel pour la pratique, ainsi que la non-mécanisation de certains fonctionnaires de l'État. Félix Tshisekedi a demandé à la population de lui faire confiance en allant voter pour lui le 20 décembre prochain. Certaines réalisations sont en cours et d'autres problèmes seront résolus, a-t-il rassuré ses interlocuteurs. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Félix Tshisekedi quitte Kisangani ce jeudi et retourne à Ituri avant de se rendre dans les Hautes-Ouélie. De son côté, le candidat numéro 3 est arrivé hier mercredi à Kalemi. Moïse Katumbi, accompagné par la foule, a parcouru une dizaine de kilomètres à pied avant d'atteindre le terrain Benda, au quartier Kamko, lieu prévu pour le meeting. À cette occasion, Moïse Katumbi Chapwe a abordé plusieurs points qui préoccupent la population de Kalemi. Paul Munanga.
Dans son adresse à la population, Moïse Katumbi a promis la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières. Aussi, la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Bendera qui alimente Kalemi en énergie électrique et dont deux groupes sont à l'arrêt depuis plusieurs années. Une fois élu président de la République, le candidat numéro 3 a aussi promis de l'emploi aux jeunes de la province du Tanganyika et il a assuré qu'il mettra fin à la tracasserie au port de Kalemie. En outre, il a promis d'instaurer la bourse en faveur des étudiants. Moïse Katumbi. Est-ce qu'actuellement c'est possible de se rendre par route à Moba ou à Uvira? Je vais asphalter la route de Kalemie jusqu'à Kongolo et puis jusqu'à Uvira et au sud Kivu. Est-ce que vous vous rendez à Lubumbashi par route actuellement? Lorsque j'étais gouverneur, cette route était réhabilitée et vous vous rendiez à Lubumbashi sans difficulté. Je vais aussi réhabiliter cette route. Et puis lorsque j'étais gouverneur, le prix d'un seau de maïs était de 9 000 francs congolais. Aujourd'hui, ce même seau se négocie à 50 000 francs congolais à Kalemie. Il est temps de mettre fin à tous ces problèmes et de les conjuguer au passé. Kalemie, Paul Munanga, Radio Okapi.
Et à Ituri, le candidat Martin Fayulu a présenté son programme dans son adresse hier mercredi devant de nombreux habitants à la tribune de Bounia. Il leur a demandé de voter massivement pour lui, comme en 2018, pour lui permettre de réaliser son plan d'action en faveur de la population de cette province qui subit encore les conséquences de la guerre. Il a dénoncé certaines antivaleurs qui, selon lui, caractérisent le pouvoir en place. Isaac Raymond.
Pour le candidat de l'opposition Martin Fayulu, le pouvoir en place n'a pas réalisé les aspirations de la population de la province de l'Ituri qui regorge d'énormes ressources. Il a déploré la persistance de l'insécurité malgré les régimes spéciaux de l'état de siège, les délabrements des routes, les détournements des deniers publics, notamment dans les projets des 100 jours et les dossiers des rames. Face à cette situation qui, selon lui, pérennise la souffrance de la population, il a présenté son programme axé sur quatre piliers. Tout d'abord, la pacification de la RDC et de l'Ituri en particulier, en formant une armée forte, mieux équipée et très bien prise en charge. Son programme prévoit également l'instauration d'un état des droits en RDC, la cohésion nationale en luttant contre les tribalismes et la gouvernance intègre en mettant fin à la corruption et au détournement des deniers publics. Martin Fayulu a également défini les priorités de son programme, dont la sécurité, l'électricité, l'eau, la santé, les infrastructures et la création d'emplois. Il a demandé à la population de l'Ituri de les voter encore massivement comme en 2018. Envie de réaliser sa vision. Avant de clôturer son message, il a accordé la parole à certains habitants qui ont exprimé leurs besoins prioritaires pour lesquels ils attendent des solutions urgentes. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Notez que le candidat d'Elise Sanga était quant à lui en Banzangungu au Congo central. Radio Okapi poursuit la série de diffusions des interviews avec les candidats à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter le candidat numéro 15, Denis Mukwege. Il affirme briguer la magistrature suprême parce qu'il veut poursuivre sur le terrain politique ce qu'il avait commencé sur le bloc opératoire. Il précise qu'il veut mettre fin à la guerre, mettre fin à la faim et mettre fin au vice. Docteur Denis Mukwege, au micro de Cynthia Bachizi et Guy Maté.
Ça fait 30 ans que notre pays connaît une situation particulièrement difficile où le corps des femmes a été transformé en champ de bataille. Donc sur le plan médical, je puis faire ce que je pouvais faire, donc soigner, mettre en place de pratiques ou de techniques chirurgicales nouvelles. Nous avons aidé ces femmes sur le plan psychologique, sur le plan socio-économique et sur le plan légal, nous essayons de faire de notre mieux. Mais est-il que pendant tout ce temps, je m'étais rendu compte qu'au bloc opératoire, je n'étais pas efficace, puisque finalement, les femmes que j'avais soignées revenaient pour la deuxième, la troisième fois, puisque la guerre, finalement, elle est toujours là, et cette guerre continue à détruire ces femmes. Mes plaidoyers sur le plan national, régional, international, arrivaient à un certain niveau où il était nécessaire que ces plaidoyers puissent être accompagnés par une action puissante du gouvernement.
Retrouvez l'intégralité de cette interview à 8h30, 15h30 et 20h et à tout moment sur les plateformes numériques de Radio Okapi. Sachez par ailleurs qu'au Nord Kivu, la Caritas a commencé depuis mardi la distribution de l'aide humanitaire octroyée par Moïse Katumbi en faveur des déplacés de Boulengo et Kanyaruchinya autour de Goma. Il s'agit de 100 tonnes de vivres et non-vivres qui sont répartis dans ces deux sites de déplacés. Le directeur de la Caritas Goma affirme que cette distribution se poursuit sans incident car les plus nécessiteux et les déplacés arrivés récemment et qui n'ont rien ont été identifiés bien avant par leur chef de bloc. Ces responsables appellent d'autres organisations et les personnes de bonne volonté à venir également assister ces déplacés qui sont très nombreux et ont besoin de tout. Comme annoncé au sommaire, le gouvernement provincial du Sud-Kivu vient de mettre en place un plan de relèvement post-catastrophe de Calais. L'exécutif provincial, par la bouche du vice-gouverneur, rassure l'opinion, plus particulièrement les sinistrés de la catastrophe de Bouchouchou et Nyamukubi. Sa détermination à traduire ces plans en des projets bancables. Mais l'heure est encore à la recherche des partenaires financièrement disponibles pour la mise en œuvre des actions prioritaires qui sont retenues dans ces plans de relèvement. Jean Kassami pour le reportage.
Parmi les actions prioritaires que les sinistrés de Bouchouchou et Nyamukubi veulent voir s'accomplir figure en premier leur délocalisation. Les représentants des sinistrés de Bouchouchou à l'atelier de relèvement et réinstallation des victimes de la catastrophe du 4 mai dans Kalehe énumèrent d'autres besoins qui attendent l'appui du gouvernement et ses partenaires. Godefroy Moulenga Biouma.
L'érection des passerelles sur les rivières Lukungula, Kabushungu et Nyamukubi, acheter des parcelles et construire des maisons d'habitation décentes aux sinistrés de Bouchouchou en vue de recouvrer notre dignité humaine.
L'autorité provinciale tend la main au gouvernement central pour soulager tant soit peu les populations sinistrées du territoire de Kalehe. Marc Malago, vice-gouverneur de la province du Sud-Kivu.
Nous n'allons ménager aucun effort pour que ces plans soient financés. Nous comptons sur les contributions des autres partenaires techniques et financiers.
Le premier ministre était représenté. Une façon d'attester que le sort des sinistrés de Kalehe préoccupe le pouvoir au plus haut sommet. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Et puis, la RDC s'est engagée depuis 2010 dans une réforme profonde de son système de passation des marchés publics pour imposer aux acteurs de la commande publique un bon sens d'éthique et d'intégrité dans la gestion des dossiers des marchés publics. C'est l'objectif principal du séminaire de formation de 4 jours sur l'éthique et l'intégrité dans la gestion des marchés publics, lancé le mardi ici à Kinshasa par l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. Selon Edith Tamboué, représentant du Premier ministre à cette cérémonie, l'enjeu de cette formation est d'ouvrir les horizons pour désormais avoir un comportement susceptible de garantir l'éthique et l'intégrité dans la gestion des marchés publics au sein des institutions respectives. Et pour le directeur général de l'ARMP, l'éthique et l'intégrité, c'est le gage de la lutte contre les antivaleurs et de la corruption dans la gestion des marchés publics. Les propos de Benoît Kalikat Kalembe ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Ces nouveaux dispositifs légal impose aux acteurs de la commande publique un bon sens d'éthique et d'intégrité dans la gestion des dossiers des marchés publics dans le but d'éviter les mauvaises pratiques dans le domaine de la commande publique, notamment la fraude, la corruption et le délit d'initié. Bref, de se rendre coupable d'un acte d'improbité dans la passation ou dans l'exécution des marchés publics et des contrats de partenariat public-privé. Nul n'est besoin de rappeler l'enjeu de cette formation qui a pour but de vous ouvrir les horizons pour désormais avoir un comportement susceptible de garantir l'éthique et l'intégrité dans la gestion des marchés publics au sein de vos institutions respectives. À cet effet, durant 4 jours, vous aurez droit au module bien étoffé par les experts formateurs venus des horizons lointains.
Destinée aux exécutants et aux bénéficiaires de la commande publique, cette formation est assurée par les experts venus du Canada et du Burkina Faso. Dans l'actualité, sachez aussi qu'à Kananga, l'association congolaise des droits de l'homme, ACIDO, s'est dit préoccupée par l'arrestation du professeur des universités Mérimé Prosper Boaboua dans un document de plaidoyer adressé aux autorités, dont le vice-premier ministre de l'Intérieur. L'organisation indique que c'est depuis le 3 novembre que cet enseignant n'est plus rentré à la maison après avoir été pris sur invitation des services de renseignement. L'information est également confirmée par sa famille qui indique qu'il a été transféré à Kinshasa. Estimant cette détention prolongée illégal, le coordonnateur de l'ACIDO souhaite que les dossiers du professeur Mérimé Prosper Boaboua soient transférés devant les instances judiciaires.
Actualité internationale.
Le Conseil de sécurité de l'ONU se prononce aujourd'hui sur le renouvellement de la mission intégrée pour l'assistance à la transition au Soudan. Après 2 ans et demi d'échecs, le destin de cette mission semble compromis. Khartoum voudrait mettre un terme immédiat à cette mission.
L'invité.
Le gouvernement congolais est en train de brader un des aspects de sa souveraineté en cédant la gestion de ses frontières aériennes aux étrangers pendant qu'il fait face à la guerre d'agression. C'est en ces mots que le syndicat Fossico, membre de l'intersyndicale de la RVA, régie des voies aériennes, tire la sonnette d'alarme et interpelle le président de la République pour faire échec au projet d'investissement turc à travers sa firme Milvest sur la modernisation de l'aéroport international d'Injili. Pour en parler, Radio Kapi reçoit le secrétaire général de ce syndicat. Trésor Kapia évoque les clauses de ce contrat en gestation qu'il considère léonin, mettant en péril les emplois au sein de la RVA. Trésor Kapia s'entretient avec Jeff Ngoy.
Trésor Kapia, bonjour.
Bonjour, monsieur Jeff.
Qu'est-ce qui se passe à la RVA?
Il y a un malaise entre les agents de la RVA et les autorités de la République, certains membres du gouvernement. Parce que ici, nous avons un contrat manifestement léonin, le contrat Milvest RDC, où, tout en étant d'accord qu'il faut moderniser l'aéroport international de Njili, nous attirons l'attention du chef de l'État. Parce que il est très trompé, sa bonne foi est très abusée par ses collaborateurs. Nous attirons donc son attention en ce que, d'abord, on nous amène un contrat de 1 milliard de dollars. Nous n'en avons vraiment pas besoin à cette hauteur-là. En ce que, quand on prend le rythme de croissance des passagers dans un aéroport, il faut chaque fois attendre 10 ans. Mais ici, nous sommes à 2 millions par an. Mais on nous amène un contrat de, on nous amène un projet pour 8 millions de passagers par an. Nous devons attendre 10 ans pour passer de 2 millions à 4 millions. Et puis de 4 millions à 8 millions, c'est 20 ans donc pour atteindre la vision maximale du projet d'aéroport tel qu'on veut le construire. Dans l'entretemps, on va nous construire un éléphant blanc qui servira de prestige, mais en termes d'utilité, ça ne servira à rien.
Est-ce que maintenant l'aéroport, dans cet état-là, il sert à quelle utilité avec la RVA? On ne sait pas où va l'argent de GoPass, qu'est-ce qu'on en fait?
Il est vrai qu'il y a une taxe GoPass qui avait été instituée pour la modernisation des aéroports, pour l'entretien, la mise à niveau chaque fois des infrastructures de la RVA. Est-ce que cela est respecté? Vous pouvez le constater par vous-même. Mais maintenant, par rapport au projet Milvest, nous estimons que Milvest peut fort bien, Milvest ou n'importe quel autre bailleur de fonds ou n'importe quel autre investisseur, peut fort bien amener des capitaux, comme le gouvernement de la République ne manque pas 350 millions, 500 millions par exemple, pour investir dans la modernisation de l'aéroport. Ce dont nous nous offusquons et ce contre quoi nous nous opposons, c'est que c'est la teneur, le contenu du contrat tel qu'il a été approuvé et signé ou en passe d'être signé entre le gouvernement de la République, la RVA et Milvest.
Le contrat n'est pas encore signé.
Le contrat ne serait pas encore signé formellement, mais il est déjà approuvé et visé par certains ministres, notamment le ministère des Finances, le ministère des Transports et je crois le ministère des ITPR, quelque chose comme ça.
Vous avez eu accès à ces contrats, bien au draft de ces contrats. Quelles en sont les clauses?
Nous avons les drafts du contrat. Vous savez, en une minute, on ne sait pas tout dire ici. Mais en un mot, Milvest n'a que des droits. La RVA ou la République démocratique du Congo n'a que des devoirs. Premièrement, nous produisons à la RVA annuellement autour de 60-70 millions de dollars. Mais Milvest, quand elle reprendrait cette partie de la RVA, Milvest réverserait annuellement seulement 10 millions de dollars à la RVA. Deux, avant que le contrat entre en exécution, la RVA devrait résilier tous les contrats de ses travailleurs actuellement en force. Trois, y a des pénalités que Milvest va appliquer à la RVA ou à la République chaque fois que la République sera défaillante dans l'exécution des clauses qui sont dans ce contrat. 4, il peut arriver que dans l'exécution du contrat, Milvest n'est soit pas content, soit voit que ce n'est pas rentable le projet tel qu'il se le représentait. Lui, Milvest, quand il va chercher à quitter la RDC, tous les travailleurs qu'il aura engagés redeviendront RVA. 5, enfin, il y a plusieurs autres exemples, mais je m'arrête là. On va céder comme ça pendant 29 ans la gestion de la RVA à Milvest, avec en sous-main que nous sommes en train de brader un aspect fort de notre souveraineté nationale. Donc nous cédons nos frontières à des étrangers pendant ce moment critique où nous savons que la RDC fait l'objet d'une guerre féroce, atroce et inhumaine.
Qu'est-ce que vous préconisez comme solution?
Idéalement, le gouvernement de la République peut fort bien mettre la main à la poche et financer la modernisation de la RVA. Ou alors, on peut ouvrir le capital, parce que la RVA c'est une société commerciale aujourd'hui, on peut ouvrir le capital de la RVA par un investissement PPP, donc le partenariat public-privé, où celui qui vient, il va rentrer dans la société en tant que gestionnaire, en tant qu'investisseur, mais en ne dépouillant pas la RVA de ce qu'elle est, en ne dépouillant pas la RVA de son personnel qu'elle mettrait à la retraite, anticipée au chômage.
Attention Capia, merci.
Merci Monsieur Jeff.
Et c'est la fin de ce journal, supervisé par Pele Kipela Mondo et mis en onde par Polydor Basunga. Merci de l'avoir écouté.